Vous écoutez France Culture.
Réplique, France, la grande mutation, avec Michel Tribala et Laetitia Van Ekout. Michel Tribala est directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques. Elle publie aujourd'hui « Assimilation, la fin du modèle français » aux éditions du Toucan. Laetitia Van Ekout, journaliste au Monde, où elle a suivi de 2005 à 2010 les questions d'immigration et d'intégration, publie quant à elle « France plurielle » chez Gallimard dans la collection Folio Actuel. Ces deux titres me dictent ma première question. Si le modèle français d'assimilation tombe en déshérence, n'est-ce pas parce qu'il ne correspond plus à la situation culturelle et démographique de notre pays? La France plurielle n'impose-t-elle pas un autre paradigme? Et si tel est le cas, lequel? Laetitia Van Ekout.
Bonjour. Moi, je ne pense pas que le modèle d'intégration français soit mort. Certes, la France connaît une grande mutation avec une pluralité, une diversité des histoires, des origines et autres. Et je pense qu'elle est peut-être multiculturelle, mais elle ne tombe pas dans le. Elle n'a pas versé dans le multiculturalisme. Et je pense que notre modèle d'intégration doit être surtout revitalisé. Revitalisé. Et peut-être rappeler un peu ces fondements initiaux. On a trop tendance, on oublie que finalement, bon, dans le modèle d'intégration, effectivement, l'assimilation a toujours été centrale, mais on oublie qu'initialement, elle n'était pas conçue comme une simple injonction, mais comme un long processus de socialisation comportant deux aspects. D'une part, l'intériorisation des normes et des valeurs, et par ailleurs, l'intégration physique, l'accès à l'emploi dans toutes les sphères sociales. Et dès lors qu'ils étaient assimilés, finalement, les immigrés, leurs enfants, leurs petits-enfants, ne devaient plus se singulariser dans le corps social, mais ils obtenaient en l'échange un égal accès à toutes les sphères sociales. Et je crois qu'on a trop tendance à oublier que la force du modèle d'intégration français, elle réside dans l'indifférenciation qu'elle sous-tend et à laquelle chacun aspire dans cette situation, autant qu'au respect de ses singularités dans d'autres situations. Et mais vous-même, vous dites que vous aimez cette vertu de la civilisation française qui vous a permis à la fois d'être français sans vous empêcher d'être juif. Donc, on a chacun une identité singulière. Et l'idée, c'est de à la fois que chacun soit indifférencié dans toutes les sphères sociales et en même temps qu'on ne nie pas l'apport de chacun par ses singularités dans la société.
Oui, mais là, si on écoute le mot d'assimilation, d'ailleurs, vous ne l'avez pas repris. Vous avez dit le modèle d'intégration reste valable, éventuellement.
J'ai précisé qu'il avait toujours été central, l'assimilation, dans le.
Oui.
Mais avec deux aspects.
Avec deux aspects. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, d'une part, l'intégration est en crise, d'autre part, le mot lui-même semble être remis en question. Et quand vous parlez de France plurielle, quand vous choisissez ce titre, c'est bien pour. Enfin, vous semblez impliquer que toutes les composantes de cette France doivent être traitées à égalité. Or, si c'est vrai, nous changeons en effet de paradigme. Il peut y avoir une pluralité de Français, mais la France de l'assimilation ne se voulait pas d'emblée pluriel. C'est-à-dire, la pluralité n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y avait quand même une cohésion, il y avait quand même une homogénéité, une unité dont le mot même de France pluriel semble s'affranchir.
La pluralité, elle est là. C'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'après, je veux dire, il y a quand même un bien commun, il y a effectivement l'intériorisation par tous de normes, de valeurs qu'on doit tous partager. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier ce qui nous singularise chacun.
Oui, alors,
Michel Tribala.
Mon constat sur le modèle d'assimilation, c'est un constat de fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a des conditions pour que ce modèle fonctionne. Il faut d'abord il faut évidemment une bonne volonté de ceux qui s'installent en France et l'acceptation d'une asymétrie. Le modèle d'assimilation est un modèle asymétrique, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas effectivement à égalité d'emblée en mettant le pied sur le territoire et il y a un ascendant culturel qui, pour qu'il fonctionne, doit être reconnu à la population et à la société d'accueil. Ça a disparu et on a beaucoup contribué à sa disparition, notamment en se battant les flancs et en se faisant tous les reproches du monde, ce qui n'a pas rendu ce pays très attractif auprès de tous ces jeunes qui sont maintenant dans nos écoles, puisqu'on est censé avoir fait le pire, qu'on a une espèce de méfiance systématique vis-à-vis du peuple français en craignant toujours ses débordements, comme s'il était toujours sur le point d'exploser. Donc cette condition-là n'est pas remplie. Il faut aussi que le corps social soit consentant. Parce que ça n'est pas l'assimilation, ça ne s'installe pas par des lois particulières. C'est le corps social qui est à l'œuvre. Et ce corps social, il doit avoir l'assentiment de ses élites culturelles, politiques, médiatiques, etc., pour fonctionner. Or, cet assentiment a disparu. Cet assentiment a disparu au moment où, justement, ceux que j'appelle les natifs au carré, c'est-à-dire ceux qu'on appelle français... de souche, entre guillemets, donc j'emploie plus ce mot. Donc, si vous voulez.
Enfin, français de souche, c'est plus clair que natif au carré.
Natif au carré, c'est très, très clair, une fois que je vous aurai expliqué ce que
oui,
c'est.
Oui, d'ailleurs, vous avez un petit lexique qui l'explique à la fin de votre livre.
Ce sont des personnes qui sont nées en France, de deux parents nés en France. Ouais. Donc, d'où le carré. Bon, on pourrait parler des Français, des natifs au cube, si on veut. Bon, ça complique peut-être un peu les choses. Donc, quand ces natifs au carré des catégories populaires n'ont plus l'assentiment des élites pour faire ce qu'elles faisaient autrefois, c'est-à-dire la pression sociale dans le voisinage, pour qu'effectivement il y ait des adaptations de comportement, je veux dire, elle évite les lieux de concentration de ces populations d'origine étrangère, donc qui se retrouvent plus souvent entre elles et qui n'ont aucune raison de vouloir abandonner des modes de vie qui ne sont d'ailleurs pas contestés, puisque c'est la France plurielle, tout mode de vie à peu près se vaut, pourvu que les lois, en gros, soient respectées. Donc c'est un abandon, je veux dire, en race campagne, de toutes les conditions qui étaient nécessaires.
À cette assimilation.
Alors, j'ajouterais aussi que dans les élites politiques, et notamment au niveau européen, il y a une anticipation du déclin démographique des forces vives européennes. L'Europe compte sur l'immigration pour que la population européenne perdure. Et donc elle s'attend à une Europe de plus en plus plurielle et diversifiée au niveau de son peuplement. Et donc, elle cherche en fait, les autorités européennes cherchent, et c'est le cas aussi de la France maintenant, de manière affirmée avec les 5 rapports qui ont été remis au Premier ministre, à adapter les populations européennes à la diversité. C'est-à-dire que si vous voulez, au lieu de déplacer le tabouret pour le rapprocher du piano, c'est le piano qu'on va essayer de rapprocher du tabouret.
En plus, le tabouret devient de plus en plus grand, presque aussi grand que le piano.
Voilà, donc...
Mais vous laissez entendre que l'intégration ne fonctionne plus. Moi, je voudrais quand même... Je pense qu'on a trop tendance à se polariser. Alors, il ne faut pas nier qu'il y ait des tensions sur certains territoires. C'est une chose. Mais globalement, la grande majorité des immigrés, et surtout de leurs enfants et petits-enfants, s'intègrent et se fondent dans la société française. Il faut quand même rappeler que c'est quand même la grande majorité. Et on a tendance à se focaliser uniquement. Mais finalement, ce modèle, il fonctionne, l'indifférenciation, elle fonctionne aujourd'hui. Qui s'étonne encore d'avoir que son enfant est un prof de maths d'origine asiatique ou un médecin noir, quoi. Voilà, c'est...
Vous prenez les cas les plus favorables, parce que d'avoir un professeur asiatique ou un médecin noir, vous faites référence à des catégories sociales très élevées, et je veux dire, les problèmes de cohabitation, de mode de vie...
Un chargé de compte dans une banque, c'est pas forcément un niveau d'emploi surélevé, qui peut être d'origine maghrébine ou autre. Je veux dire, on ne s'étonne plus de ça, quoi. Je veux dire,
non, mais je veux dire, il n'y a pas de raison de s'étonner d'avoir des gens qui aient un aspect différent d'un autre, et qui font leur travail comme d'autres, il n'y a aucune raison.
Je pense qu'une grande majorité de gens...
C'est pas le problème.
Oui, mais Laetitia Van Écoute, il y a des lois en France qui sont d'ailleurs très contestées, mais par exemple, d'interdiction du voile islamique à l'école, d'interdiction de la burqa, même si la loi a pris une autre terminologie. Il s'agit de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Tout ça pour réagir, malgré tout, à un mouvement de réislamisation qui va à l'encontre du processus de sécularisation dans lequel nous sommes emportés. Et cela crée évidemment des tensions assez fortes parce que les modes de vie ne sont pas les mêmes, et c'est là que la question se pose de plus en plus de savoir si une culture ou même simplement un style d'existence doit avoir la préséance sur un autre, et que certains, toujours plus loquaces, font valoir l'idée d'une égalité des cultures sur le territoire national, dans une France de moins en moins substantielle et de plus en plus procédurale. Tout cela, quand même, doit être pris en compte.
Une culture ne doit pas spécialement dominer plus
qu'une autre.
Plus qu'une autre. Et si on reprend le cas de la loi sur l'interdiction, je rappelle quand même qu'au départ, c'est quand même l'interdiction du port de tout signe religieux ostensible, quand même. Il faut quand même rappeler... Je finis juste. Le problème de cette loi, ce n'est pas qu'elle édicte clairement et qu'elle indique clairement une norme. Donc l'interdiction, effectivement, j'allais dire, de l'entrée de la religion dans... du prosélytisme religieux ou autre dans l'école. Le problème de cette loi, c'est la façon dont elle a été perçue, reçue. On s'est polarisé effectivement sur l'islam et tout ça. Et je pense que la loi, elle doit être protectrice de l'éducation et des enfants, mais alors qu'elle a été vécue comme stigmatisante. On a focalisé complètement sur l'islam, et vous avez toute une population qui effectivement s'est sentie stigmatisée. Et moi, je voudrais juste, parce que je pense qu'il y a un peu deux conceptions de la laïcité. Il y a d'une part absence du religieux dans l'espace public, certes, on peut s'en tenir là, mais il y a peut-être une conception plus ouverte qui repose sur le vivre ensemble de l'ensemble des parts de la France, et la neutralité, une laïcité ouverte. Et en l'occurrence, il faut peut-être aussi rappeler, par exemple, que la commission Stasi, qui avait travaillé avant cette loi, fameuse loi, entre guillemets, dite sur le voile, non seulement édictait cette interdiction des signes ostentatoires religieux, mais préconiser aussi, par exemple, l'adaptation de mets indifférenciés qui ne tranchent pas dans les cantines scolaires, l'instauration d'aumôneries dans les... alors ça s'est fait, ça a été développé depuis dans les prisons ou dans les hôpitaux et autres. Il y avait... Ou l'instauration, par exemple, d'un jour férié selon les différentes religions. Pourquoi, effectivement, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui a changé dans la France, c'est qu'on est pluriel, on se compose de différentes singularités.
Mais voilà. Ça a toujours été le cas. La France n'a jamais été un pays. Et je ne parle pas pluriel au sens où vous l'entendez. Je veux dire, enfin, il y a une diversité énorme dans ce pays. Même si on avait, elle serait là, même si on n'avait jamais connu d'immigration. Donc, je veux dire, la diversité ne nous arrive pas miraculeusement par l'immigration.
Ah, mais je suis entièrement d'accord.
Donc, la diversité existe. Le problème avec la question du voile et d'autres, tout ce qui touche à l'islam, c'est que l'islam nous pose un problème. Et pour régler le problème de l'islam, on est obligé de lui trouver des compagnons. Donc, on peut pas traiter de l'islam, et parler franchement des problèmes qui se posent avec l'islam. Il faut qu'on en trouve chez les évangéliques, chez les juifs éventuellement, etc., pour l'accompagner. Donc, la loi sur les signes religieux, ça sert à ça. Quand vous pensez qu'on a parlé des grandes croix, tout le monde s'est demandé à quoi correspondaient ces grandes croix qu'on interdisait. Personne ou à peu près n'en avait jamais vu. Donc, ça, c'est le contexte un petit peu dans lequel on est obligé de légiférer. Mais si la France contient une certaine diversité, il faut aussi que les gens aient la possibilité de garder une continuité avec leur propre histoire. Que la remise à plat permanente de ce qu'elle est et empêche, parce que la sociabilité, ce n'est pas seulement entre nous aujourd'hui, entre les vivants, c'est aussi avec ceux qui nous ont précédés.
Toute la question est de savoir, Laetitia, on écoute, si la sociologie doit avoir la préséance sur l'histoire. C'est-à-dire, avons-nous droit, comme le disait Ortega et Gasset, à une certaine continuité historique, ou bien pensons-nous la France au présent et devons-nous régler au présent donc les rapports entre les diverses communautés qui forment la France. Vous avez parlé des fêtes, mais y a-t-il ou non, selon vous, un privilège de l'ancienneté, de la tradition? La plupart de nos jours fériés sont calqués sur, ou un certain nombre d'entre eux, sur les fêtes catholiques, parce que la France fait partie de l'Europe qui a été chrétienne, a été la fille aînée de l'Église. Quel rapport devons-nous entretenir avec ce passé? Doit-il être bousculé au nom du présent?
Laetitia Van Ecoot. C'est peut-être le socle, et c'est peut-être ça. Mais je veux dire, comme tout individu évolue, progresse, se développe et autres, je pense qu'il y a une continuité et qu'en l'occurrence, il y a des enrichissements, il y a des sédimentations progressives et qu'aujourd'hui, ce n'est pas renier. Il ne s'agit pas de renier tout le passé ou autre et toutes nos les origines de la France et ce qu'il a fondé. Je veux dire, mais ça évolue.
Alors ça évolue, mais là, il est temps de parler de ce rapport auquel vous avez fait allusion, Michel Tribala, un rapport en 5 volets, déposé sur le bureau du Premier ministre pour préparer, je crois, une grande discussion sur l'intégration.
Pour rénover la politique
oui. D'intégration, un rapport préparé par un autre rapport de Thierry Thuot, un conseiller d'État, qui milite, lui, très directement pour une société inclusive. Donc le mot d'assimilation est évidemment abandonné. Celui d'intégration, dans les rapports dont je parle aussi, il est jugé problématique parce qu'il ne demande d'efforts qu'à ceux qui arrivent. Et j'ai lu ces rapports parce que mon attention avait été attirée sur eux par un article de Malika Sorel dans Causeur. Et j'ai été très surpris parce que non seulement, bien sûr, il y a une réciprocité totale qui est instaurée, donc plus du tout de dissymétrie, plus du tout d'asymétrie, pardon, entre la culture d'accueil et les nouvelles cultures de la France. Mais encore, il y a une sorte de projection de la réalité actuelle sur l'histoire, de réécriture de l'histoire à la lumière de cette réalité, puisqu'il est dit, et je voudrais vous demander ce que vous en pensez, que la France devrait assumer la dimension arabe-orientale de son identité et sortir de son attitude postcoloniale. Pour ce faire, il faut inciter les communes à nommer de nouvelles rues et places de ville et villages en écho avec l'histoire des migrations. Le français est qualifié de langue dominante, presque comme si il fallait revenir sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts, et donc il faut manifester une bienveillance linguistique parce que celle-ci est une condition du savoir-être démocratique. Donc tout cela me surprend beaucoup, moi qui ne suis pas du tout un natif au carré, puisque mes parents étaient tous deux polonais, et ils ont été naturalisés. Donc je suis très très surpris par cet effort unilatéral demandé à la France pour s'ajuster à sa nouvelle réalité pluriel. Si vous avez lu ces rapports, Laetitia Van Écoute, je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Je pense que, déjà peut-être rappeler que faire nation, effectivement, c'est partager quand même un certain nombre de références communes. Et le récit national en fait partie. Ça permet de partager, un partage de valeurs, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce récit national, effectivement, par rapport à la réalité, mérite d'être enrichi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de raconter Louis XIV, Richelieu ou autre, et puis tomber dans l'idée d'apprendre dans les écoles l'histoire de tel ou tel pays africain ou autre. Non, l'idée c'est de montrer, c'est juste d'arrêter d'occulter un certain nombre de choses et de rappeler et d'intégrer dans ce récit national les interactions que notre histoire a eu avec le monde, le reste du monde. Ce n'est pas privilégier l'histoire de tel ou tel pays tel ou tel événement qui n'aurait rien à voir avec notre pays. C'est juste de voir les interactions de notre histoire avec le reste du monde.
Et est-ce que ces interactions vont jusqu'à réécrire l'histoire même de l'immigration, parce que, la fin des grandes invasions et la deuxième moitié du 19e siècle, l'immigration en France a été individuelle et donc marginale, sinon insignifiante. Or, à lire que la France devrait assumer sa dimension arabo-orientale, on voudrait nous faire croire que la France a toujours été un pays d'immigration pour faire entendre aux Français que la situation qu'ils vivent comme absolument nouvelle est en fait une situation totalement naturelle, consubstantielle à l'histoire de France. Là, je me demande si
Il ne s'agit pas de dire que c'est consubstantiel à l'histoire de France. C'est de se dire qu'à un moment donné, effectivement, au départ, l'immigration était peut-être individuelle. Et puis, de toute façon, la France, elle s'est constituée d'abord par nos différentes régions, un rassemblement de nos régions. Et après, c'est devenu de plus en plus loin. Et c'est toute une évolution. Et notre histoire, elle est faite de ça, de cette évolution. Donc, mais l'idée n'est pas de bousculer et de réécrire complètement toute l'histoire de France, et notamment l'histoire de l'immigration. Ça n'aurait pas de sens.
En tout cas, c'est l'idée des cinq rapports en question.
Très
clairement, non, mais parce qu'on nous demande un avis sur les cinq rapports. Oui. Bon, ces rapports, on a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire de France sans immigration, effectivement, et qu'on doit toujours rappeler. C'est-à-dire que ce sont les Français, natifs au carré ou d'origine, comme on peut dire, auxquels on doit apprendre en permanence la colonisation et l'esclavage. On prétend même revisiter entièrement le Panthéon et faire des groupes de réflexion pour savoir on peut plus dire grands hommes aujourd'hui, puisqu'il s'agit de diversifier rétrospectivement les grands hommes, parce que c'est ça, c'est rétrospectivement,
oui,
refaire rentrer...
L'histoire enseignée se réfère à des figures incarnées qui demeurent très largement des grands hommes, entre guillemets, mâles, blancs et hétérosexuels.
Voilà, donc bon...
Dans l'histoire enseignée, il y a toujours eu l'histoire ancienne, le Moyen-Âge. C'est dans l'histoire contemporaine, effectivement, il peut y avoir... La France, elle s'est ouverte sur le monde, elle a migré. C'est intégrer ça, ce n'est pas faire de l'immigration la seule trame de toute l'histoire de France. C'est, l'objet, il n'est pas là.
L'objet de ces rapports, c'est quand même d'en faire un point central.
Je n'ai pas écrit ces rapports.
Non, mais ce n'est pas un rapport proche qui vous est adressé, puisqu'on discute de ces rapports tous. Donc, l'objet de ces rapports, c'est quand même de sermonner et de réformer la société française pour qu'elle s'adapte, qu'elle change son regard et qu'elle s'adapte, je veux dire, aux nouveaux comportements qui débarquent et qui vont continuer de débarquer en France. C'est ça.
Mais...
Et quand vous parliez de la langue, c'est ce qui est écrit est bien plus grave. C'est, le français est une langue dominante dans le pays plurilingue. Donc, bon, c'est même contraire à la Constitution. Ça, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour faire rentrer un truc pareil. On prévoit même de revenir sur la loi sur le voile à l'école, qui est une loi discriminatoire. On prévoit aussi de châtier ceux qui parlent mal. C'est-à-dire que ceux qui parlent mal, ce n'est pas seulement parler de manière raciste, c'est parler éventuellement des origines des gens. C'est-à-dire qu'on nous demande à la fois de ne voir que ça, la différence partout, de l'aimer, de la valoriser, de la porter au nu. Et en même temps, il ne faut surtout pas la qualifier, jamais, parce que sinon, on pourrait se trouver devant un procès pénal pour incitation à la haine raciale, ce qui est quand même un comble. Enfin, c'est une position qui est insupportable pour tout le monde. Alors, on va nous former beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de formation dans ces rapports. Donc, il y a des formations qui seront destinées à tout le monde, aux citoyens, aux maires, aux politiques, aux journalistes, etc. Donc, peut-être qu'on finira par entendre et par finir par parler correctement. Mais bon, c'est quand même, je veux dire, un projet inquiétant de réformation de la société française.
Mais surtout, il a été ça, venez, écoute, vous dites, il est important aussi d'avoir un regard vrai sur l'histoire. Et vous avez parlé tout à l'heure de ces lois concernant les signes religieux qui ont été perçues comme stigmatisantes. Comme Michel Tribala vient de le rappeler, un des rapports demande la suppression des dispositions légales et réglementaires scolaires discriminatoires concernant notamment le voile. Donc il veut remettre en cause...
Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que cette loi, le problème de cette loi, ce n'est pas d'édicter une norme.
C'est le fait qu'elle a été perçue ainsi.
C'est la façon dont elle s'est appliquée et dont on en a parlé, dont on... Elle est...
Mais justement, l'histoire pourrait nous servir là de véritable point d'appui. C'est-à-dire que nous réfléchissions quelques minutes à ce qu'a été la République anticléricale en France quand il s'est agi pour la République de faire reculer l'Église et de bâtir à côté et contre l'enseignement confessionnel un véritable enseignement laïque. Jacqueline Lalouette, dans un livre très intéressant sur la République anticléricale, nous fournit le lexique de l'anticléricalisme. Et c'est inouï, hein, Alphonse, c'est Jésus, ce prénom utilisé pour désigner les proxénètes était particulièrement offensant et jetait un éclairage très particulier sur la relation du Christ avec les saintes femmes. Le calice, c'était la baignoire à bon Dieu. Le pape, c'était l'idiot du Vatican. Le mot éteignoir désignait l'Église. Et il y a des choses bien plus injurieuses encore. Donc la catophobie de la République a été beaucoup plus virulente que ce qu'on appelle aujourd'hui son islamophobie, parce que le terme est très en vogue. Ne serait-il pas utile de le rappeler précisément pour permettre aux musulmans de comprendre qu'il n'y a rien de stigmatisant à vouloir, avec tous les égards nécessaires, leur faire respecter une laïcité qu'on a imposée aux catholiques sans le moindre égard. Laetitia Van Écoute.
Moi, je pense qu'il faut en revenir au fondement de la laïcité et qu'effectivement, la religion n'a rien à voir avec les... ne doit pas rentrer dans l'école. Mais cette laïcité, elle doit être... c'est pas uniquement l'interdiction dans l'espace public, c'est aussi l'idée du vivre ensemble, c'est d'accepter. Je pense que là, aujourd'hui, il y a une polarisation comme un nouvel ennemi de l'intérieur sur les musulmans. Mais il faut quand même rappeler que les musulmans, je veux dire, arrêtons d'associer les idées des plus fondamentalistes à l'ensemble des musulmans de France. Je veux dire, la plupart vivent de façon personnelle voire ne pratiquent absolument pas leur religion.
Oui, Michel Tribala.
Je voudrais signaler un livre qui est très intéressant, qui est le livre de Daniel Siboni, qui s'appelle « Islam, phobie et culpabilité ». Et il parle à notre égard d'une culpabilité narcissique qui tient lieu d'éthique officielle. Et je pense que une partie du malentendu vient de ça. C'est-à-dire que nous prenons sur nos épaules un problème qui concerne les musulmans en le niant, en disant qu'il n'existe pas. Alors évidemment, si ce problème n'existe pas, ils n'ont aucune raison de faire le moindre effort pour s'adapter, puisqu'on leur dit que leur texte est parfait, que tout va bien, et que c'est une religion de paix et de tolérance, et qu'il n'y a aucun problème. Daniel Siboni, dans son livre, cite un entretien intéressant auquel il a assisté entre deux lettrés, c'est-à-dire un musulman qui veut montrer à quel point sa religion est formidable et ouverte aux autres, et un autre qui connaît très bien le Coran. Et c'est un débat qui tourne, je veux dire, assez tragiquement, parce que à chaque fois que le lettré musulman cite un verset, l'autre qui connaît très bien le Coran rajoute la fin de ce verset. Bon, alors un exemple, par exemple, l'auteur dit « Ne tuez point l'homme que Dieu a sacré ». Alors l'érudit reprend la fin du verset, sauf pour une cause juste. Et donc le débat tourne à une citation de verset du Coran comme ça, où à chaque fois la fin n'est pas dite et c'est l'autre qui raconte la fin de ce verset. Je crois que ça résume bien notre situation. C'est-à-dire que on fait comme s'il n'y avait pas de choses problématiques. La manière dont l'islam conçoit l'altérité est un problème pour nous. Il devrait être un problème aussi pour les musulmans, si au moins on avait le courage de leur dire que c'est un problème. Mais on leur dit que tout va bien. Et c'est pas comme ça.
Mais moi, il ne s'agit pas de dire que tout va bien. Je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas de nier qu'une partie de l'islam a des attitudes et des façons de penser, des pratiques rigoristes qui n'ont effectivement... Mais encore une fois, je pense que dans le monde musulman est très divers et on ne peut pas... ça ne fait pas qu'un bloc.
Mais je ne vous dis pas que ça fait qu'un bloc. Je vous parle du rapport problématique au texte. C'est-à-dire, Siboni dit les islamistes sont possédés par le texte tout le temps et les musulmans sont possédés de temps en temps. Ce qui explique de temps en temps qu'il y a des surgissements. Comment expliquez-vous que, parce que, je veux dire, il y a des caricatures dans un journal danois, on brûle des ambassades, des tas d'endroits s'enflamment. C'est pas seulement des islamistes qui sont là, c'est parce que de temps en temps, les musulmans sont saisis par leur texte. Donc si on veut les aider, c'est pas de leur dire que leur texte est formidable, c'est de leur demander de nous expliquer comment ils comptent faire évoluer ce texte et la manière dont ils nous voient ce texte, c'est ça.
Mais vous avez bon nombre de musulmans qui vous disent que les textes n'imposent pas des attitudes complètement rigoristes et autres, et que les textes peuvent aussi... Le problème de la religion musulmane, effectivement, c'est que chacun, après, en fait son interprétation.
Non.
Il y a quand même
des tendances... Le texte est là et le texte vaut pour tous, si vous voulez. Donc, peuvent prendre de la distance au texte, mais on les empêche nous-mêmes de prendre cette propre distance en leur disant que ce texte est formidable et qu'il n'y a aucun problème dedans.
Il y a aussi peut-être une autre question qui concerne tous les immigrés, c'est-à-dire quel rapport doivent-ils entretenir avec le passé de la France, dès lors précisément que ce passé ne ressemble pas au leur, et aussi qu'il a été façonné par une religion qui n'est pas nécessairement la leur, et dont la présence continue à marquer nos villes et nos villages, quand bien même les églises n'auraient plus de fidèles. Je voudrais vous lire l'extrait d'un livre que je crois très important de Jean Daniel, « Comment peut-on être français ?», ses écrits de 1971 à 2011 sur l'immigration, le racisme et l'identité nationale. « Quand je suis à l'étranger, écrit Jean Daniel, et qu'on me demande de définir dans un raccourci ce qu'est la France, le génie français, je réponds souvent que l'on ne peut pas penser le génie français sans la Révolution et sans les cathédrales. Le fameux peuple bâtisseur de cathédrales cher à Péguy, ainsi que la Révolution chantée par Michelet. Séparer le projet des hommes libres de la tradition, séparer la volonté de l'héritage, c'est trahir le génie français. La nation n'est pas seulement une tradition ou seulement un héritage ou seulement une volonté. Elle est les deux. Mais il est intéressant de voir que les cathédrales sont assumées par Jean Daniel, qui est né en Algérie et qui n'est pas catholique. Qui n'est pas catholique. Est-ce qu'on peut demander ça aussi aux nouveaux arrivants? Et est-ce que ce geste d'assomption, ils sont prêts à le faire?
Mais on continue à raisonner comme si on était en face d'étrangers. Je veux dire, là, la question, elle se pose, c'est pour des enfants, des hommes et des femmes qui sont nés sur le territoire et qui même sont peut-être de la deuxième, voire troisième génération. Et donc, en fait, quand vous dites un passé qui ne ressemble pas au leur, mais leur passé, ils ont grandi en France.
Oui, mais si vous dites ils ont grandi en France, mais la France est plurielle, ils ont l'impression que c'est, au fond... leur identité qui contribue ce n'est pas une identité qu'ils auraient besoin d'assimiler. Il ne s'agit pas de s'assimiler à, mais d'assimiler une culture qui n'est pas a priori la vôtre. C'est de ça que je parle.
Attendez, pourquoi cette culture ne serait pas la leur? Je veux dire,
c'est la question que je me pose dans le cadre de cette diversité.
Pourquoi cette culture ne serait pas la leur?
Peut-être parce que précisément, il ne leur est plus demandé qu'elle soit la leur, au nom justement du nouvel idéal inclusif. Une France inclusive.
Jamais demandé à ce que ça a imposé quoi que ce soit. Et cette culture peut tout à fait être la leur. Ce qu'ils demandent, c'est être indifférencié et qu'on arrête. Voilà, c'est tout.
Mais vous-même, vous demandez dans votre livre à ce qu'on leur parle longuement de l'esclavage et de la colonisation pour qu'ils puissent retrouver quelque chose de leurs parents.
Attendez.
Il faut bien savoir, ils ne sont pas...
Comme je l'ai rappelé il y a l'histoire ancienne, le Moyen-Âge et l'histoire contemporaine. Et ce n'est pas parce que dans l'histoire contemporaine, on reconnaît que la France a pu avoir des relations et il y a pu se passer certaines choses. Laissez-moi. Juste, je pense que ça permet effectivement que les personnes dont les parents sont originaires d'autres pays, effectivement, qu'ils puissent se projeter et se dire « j'appartiens effectivement à cette histoire de France », mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va arrêter de leur raconter
pas forcément,
la Révolution
c'est, en et plus, les cathédrales. C'est une conception essentialisante de ces gens. Ce n'est pas forcément leur histoire. Quand on veut leur dire que l'esclavage et la colonisation, c'est leur histoire, je trouve que c'est une imposition qui est assez violente vis-à-vis de tous ces enfants, leur faisant croire qu'à travers cette histoire, ils en sauront plus sur leurs parents, alors que, leurs parents ne sont pas des espèces de momies qui n'ont pas de contenu.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Ils portent des normes, des valeurs et une culture particulière à laquelle ils ne sont pas étrangers. Et ce n'est pas à l'école de leur apprendre quelle est leur histoire familiale. L'école ne peut pas apprendre à chacun ou réconcilier chacun avec une histoire familiale qui serait telle ou telle.
L'idée, ce n'est pas de leur apprendre leur histoire familiale.
Vous écrivez ça dans votre livre?
Non. Ce que j'explique, c'est effectivement que le récit national, et notamment dans sa partie contemporaine, doit être enrichi d'un certain nombre de choses qui ont été une réalité dans l'histoire de France.
Mais qui sont déjà dans les programmes.
Il y a quand même des pans qui ne sont pas dedans. Je suis désolée.
Ça, c'est sûr qu'il y a des tas de pans de l'histoire qui ne sont pas dedans.
Mais voilà. C'est juste pour que chacun puisse se projeter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de leur enseigner.
Mais pourquoi voulez-vous qu'ils se projettent là-dedans? Pourquoi voulez-vous qu'ils se projettent dans la colonisation et l'esclavage? Vous nous dites qu'ils sont français, qu'ils sont d'ici, qu'ils ont la culture de ce pays.
Qu'ils se sentent partie prenante de la France, de son histoire.
Mais pourquoi voulez-vous que ce soit à travers l'esclavage et la colonisation?
Ça sera, pour certains, ce sera à travers l'esclavage.
Ce sont les exemples que vous donnez. Et d'ailleurs, ce sont les exemples qui sont cités à tout bout de champ dans ces rapports. Il faut sans arrêt revenir sur l'esclavage et la colonisation.
Alors, un mot d'ailleurs sur la colonisation, Laetitia Van Écoute, parce que vous parlez dans votre livre, France plurielle, du voyage qu'a fait François Hollande en Algérie, où il allait reconnaître pleinement les traumatismes de l'histoire entre la France et l'Algérie. Vous le citez, pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Bien. on vient de la France, le monde entier vient de s'incliner avec un très bel unanimisme devant la Mandela. Personnalité extraordinaire de Mandela. Hein, Mandela, en effet, l'homme du pardon et de la réconciliation. Ce pourrait être une occasion aussi de reparler de tout cela autrement, parce que les Afrikaners et les Anglais étaient des colons. Alors les Afrikaners sont venus plus tôt, mais la plupart des Anglais au XIXe siècle. Et si l'ANC avait agi comme le FLN, tous les colons seraient partis. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Et je rappelle que d'ailleurs Mugabe, le despote, a été salué à Johannesburg au moment de la cérémonie pour Mandela. Mais je ferme cette parenthèse. Donc si Mandela est un héros, cela peut vouloir dire aussi que la sortie de la colonisation s'est mal faite en Algérie et qu'il aurait peut-être mieux valu que les Algériens laissent aux Français qui le désirent, la possibilité de rester. Peut-être que la solution utopique de Camus était plus proche de Mandela que celle qui a été choisie par le FLN, notamment avec les massacres d'Oran au lendemain, quelques jours simplement après la déclaration d'indépendance, pour que tous les Français s'en aillent. Voilà qui serait une bonne manière de rééquilibrer et peut-être de ne pas sans cesse charger la barque de la culpabilité. Voilà. Mais Mandela comme un exemple à méditer pour ceux qui ont suivi une toute autre voie que celle de la réconciliation.
Mais je pense que ça, nul ne dit le contraire, que la décolonisation, ce qu'on a appelé la décolonisation, elle aurait pu effectivement se passer autrement. On ne va pas réécrire. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas réécrire l'histoire et refaire le fil de l'histoire. Et je pense que les propos de François Hollande quand il est allé en Algérie, ou même un peu plus tôt, au moment du 17, l'anniversaire du 17 octobre 62, de la même façon que Jacques Chirac, en juillet, le discours du Veldiv, qui a reconnu l'imprescriptibilité des atrocités vécues par les Juifs du fait de la France de Vichy, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de la repentance. C'est juste essayer de penser des blessures du peuple, quoi. C'est, voilà, mais ce n'est pas, on n'est pas dans la repentance.
Écoutez, on est quand même. On est quand même dans la, au moins dans le projet de réformation d'un peuple. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que cette tâche, qui est la tâche de la Seconde Guerre mondiale et celle de la colonisation, est suffisamment encore forte pour qu'on doive se méfier absolument des réactions du peuple. Il y a bien l'idée qu'il y a, ces attitudes violentes et intolérantes pourraient ressurgir à tout moment. Et je vous dirais que pour les Français, c'est insupportable d'être vu en permanence comme ça. C'est comme si c'était des gens qui fallait retenir tout le temps parce qu'ils allaient se vautrer dans le racisme. Le démon est toujours prêt à surgir. Donc on leur ment, on leur parle comme à des handicapés mentaux, quasiment. C'est insultant pour les gens
On peut faire ça posément. C'est vrai que c'est plus récent que ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Mais je pense que c'est... Moi, je suis désolée.
C'est pas plus récent. Je veux dire, les heures les plus sombres de notre histoire sont toujours prêtes à surgir à tout moment pour n'importe quel événement. Donc,
En l'occurrence, quoi, je sais pas. Aujourd'hui, on ne remettrait pas en cause ce qu'a reconnu Jacques Chirac, quand même.
Non, on ne remettrait pas en cause ce qu'a reconnu Jacques Chirac. Vous avez raison. En même temps, le point de vue défendu par le général de Gaulle pouvait s'entendre. La France, ce n'était pas Vichy. La France était à Londres. Et puis, ce n'est pas, si vous voulez, ce n'était pas une condition mise par la communauté juive pour s'intégrer en France. Et il y a un paradoxe quand même à rappeler sans cesse le caractère quasi génocidaire du colonialisme en Algérie, comme le président Bouteflika qui vient se faire soigner à l'hôpital du Val-de-Grâce, et d'un autre côté, de voir que les Algériens jeunes ne pensent qu'à obtenir un visa pour ce pays accusé de tous les maux, ce pays criminalisé. Parce que si ce pays est vraiment criminel dans son essence, on ne voit pas pourquoi il susciterait un tel attrait. Donc là aussi, il y a une contradiction que les Français ont le droit, me semble-t-il, de faire valoir.
Une fois, c'est pas de tomber dans la contrition et de remuer ça. Je crois qu'il faut essayer d'aborder les choses de façon un peu plus posément, apaisée. Et ça ne veut pas dire taire un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas se polariser absolument là-dessus. Mais il ne faut pas les taire.
Alors, maintenant, pour les minutes qui nous restent, je voudrais poser une question qui concerne l'avenir. Vous avez dit, Michel Tribala, que l'Union européenne pense que pour résoudre les problèmes de peuplement de l'Europe, il faudra toujours plus d'immigration. Et l'Europe s'y prépare en définissant l'intégration comme un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres. Les amendes, donc, acceptation mutuelle et non plus asymétrie. Et d'ailleurs, il est dit que l'intégration implique le respect des valeurs de l'Union européenne, mais pas nécessairement le respect ou l'adoption de sa culture ou de sa civilisation. Alors, pensez-vous que ce soit le bon chemin à prendre, ou êtes-vous, et je vous pose la question à l'une et à l'autre, pour précisément résoudre la crise de l'intégration, dont on voit quand même quelques symptômes, d'une maîtrise, d'un contrôle des flux migratoires? Et ce contrôle est-il simplement possible, Michel Tribala?
Pour les valeurs, il faut... L'Europe est ambiguë, parce que dans ce document, elle rappelle le respect des valeurs, et dans d'autres documents, elle dit que ces valeurs sont négociables et peuvent être évolutives, donc ce qui ne permet pas de n'y voir...
Et elle dit que les valeurs essentielles sont la tolérance et le respect.
Attendez, le but essentiel de l'intégration, c'est la tolérance et le respect, dont j'explique que c'est en partie contradictoire. Donc, en fait, le but de l'intégration, c'est un but moral, ce qui n'a jamais été le cas. Et ça me paraît extrêmement dangereux de se fixer un but moral dont elle ne voit pas très bien, d'ailleurs, comment y arriver, sauf par, justement, des formations et des réformations de la manière dont les Européens vivent. Et pour les habituer à cette diversité, je cite dans mon livre l'exemple de Turin, où l'Europe fait des rapports sur l'intégration tous les 2 ou 3 ans, dans lesquels elle rappelle les choses qui, d'après son point de vue, sont formidables et devraient être imitées ailleurs. Donc à Turin, il y a eu Touriste chez soi. Donc il y a eu une opération qui a été organisée où on a pris des Turinois dans les bus et on leur a fait visiter la diversité qui les entourait. Voilà. Donc c'est un peu ça la conception de l'Europe, c'est-à-dire la diversité est inéluctable, les peuples européens avec la démographie qu'ils ont ne s'en sortiront pas. Donc nous, Europe, de toute façon, en tant que institution, on a l'intention de survivre à ça. Et donc le peuplement de l'Europe est indifférent finalement. Et elle a bien conscience que si son peuplement est indifférent et que culturellement il y a une bascule qui s'opère, son message de diversité joyeuse et inéluctable est à peu près le seul qu'elle peut.
Y a-t-il une alternative selon vous à cette politique? Est-ce que c'est une alternative que vous préconisez? Est-ce que vous la jugez souhaitable ou simplement possible?
Ben moi, je veux dire, ma petite alternative par rapport à ce monstre administratif qu'est l'Europe, je ne vois pas quelle crédibilité elle pourrait avoir. J'essaie de voir dans quelle mesure ça peut... J'essaie de voir dans quelle mesure on pourrait se mobiliser sur certains points sur lesquels on ne lâcherait pas, parce que c'est ça aussi. Donc j'évoque la question de la liberté d'expression dans l'Europe et en France, qui est un problème gravissime, à mon avis, et qui n'est pas... sur lequel on a encore à lutter. Et j'évoquerai à cet égard ce document qui sort du Clarion Project et qui rappelle que vient d'être adopté un rapport par l'Organisation de la coopération islamique, dans lequel cette organisation rappelle à quel point la liberté d'expression est un problème en Europe, et elle compte sur les Européens pour l'aider à lutter contre ça.
Une liberté, en effet, illimitée, c'est ça?
Illimitée, oui. Donc,
alors, vous rappelez aussi l'initiative prise par certaines personnes au Danemark qui, en pleine crise des caricatures, alors même que des ambassades danoises partaient en fumée, n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser pour lutter contre la xénophobie un festival gastronomique permettant de déguster des plats de la cuisine du Moyen-Orient. Mais je me tourne vers vous, Laetitia.
Oui, l'anecdote, là.
Oui, mais Laetitia, Laetitia, écoute.
Une anecdote avec l'affaire des Danois, ça me paraît un peu léger.
Pensez-vous nécessaire une mutation de la politique migratoire de l'Europe pour que l'intégration se fasse, ou bien la France devenant plurielle, cette immigration doit-elle continuer et résoudre un certain nombre de problèmes démographiques et économiques qui se poseront de toute façon?
Elle ne résout rien.
Mais je pense que les États ont encore quand même leurs prérogatives d'accueil.
Aucune.
Quand même. Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation technologique, économique et autres, je pense que la mobilité, c'est une réalité. Après, je veux dire, il y a la façon dont on prend l'immigration. Pourquoi ne voir que, effectivement, l'aspect négatif? On ne voit que l'aspect négatif. Ça ne veut pas dire, par exemple, non, mais je prends l'exemple, par exemple, de l'exemple canadien, qui effectivement se fait avec des points. Mais ce pays a toujours valorisé l'immigration.
Attendez, c'est un pays neuf, le Canada. Vous n'avez pas comparé la politique migratoire du Canada à celle de la France. On prend souvent comme exemple le Canada, l'Australie, les États-Unis. Bravo. Mais bon, je veux dire, enfin, on a une histoire ancienne et longue qui ne nous met pas dans la situation du Canada.
Et il y a des problèmes peut-être aussi au Québec.
Il y a des problèmes au Canada et au Québec. Oui.
Pour terminer, je voudrais citer une phrase de Michael Walzer, le philosophe américain, qui dit ceci: abattre les murs de l'État n'est pas créer un monde sans murs, mais c'est plutôt créer un millier de petites forteresses. Donc voilà, c'est un plaidoyer implicite pour les frontières. En tout cas, je vous remercie l'une et l'autre. Je rappelle les titres de vos livres. Laetitia Van Ekout, France plurielle. Le livre est publié chez Gallimard en folio, folio actuel. Michel Tribala, Assimilation, la fin du modèle français, aux éditions du Toucan. Vous trouverez ces références et les autres titres que j'ai cités et que nous avons cités dans le cours de l'émission sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La vérité sur l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint » et mes invités seront Jean-Philippe Toussaint et Denis Podalydès. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Stéphane Touvenin, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.